Bon, je suis en compagnie de Monsieur Patrick de Chiré. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques secondes?
Alors voyons, qu'est-ce que je pourrais vous dire sur moi? C'est que j'ai donc passé la cinquantaine, c'est bien ça qui me pose un problème.
On est jeune à 50 ans.
Non, mais j'en ai 54, donc voilà, c'est dit. J'ai un parcours qui est, je dirais, pas ambigu, mais double.
Oui.
Qui est double, qui se partage entre deux passions véritables, qui sont la médecine et la musique.
Oui.
Et l'un n'est pas le refuge de l'autre, et vice-versa. J'ai besoin de ces deux passions pour vivre, pour marcher, de ces deux jambes. Voilà, mais la médecine, c'était après des études à Toulouse, une spécialisation en anesthésie-réanimation, beaucoup d'activités comme réanimateur à Toulouse, aux urgences, au SAMU de Toulouse, en réanimation à Toulouse. Je suis arrivé dans le Gers en 1982, déjà, où j'ai fait beaucoup de réanimation à l'hôpital d'Auch. Et puis depuis 6 ans, j'ai réorienté mon activité professionnelle vers la lutte contre la douleur et vers la prise en charge des patients en soins palliatifs. Ce qui fait qu'en gros, ça a été une évolution dans ma parcours professionnel, qui faisait que, très spécialiste de la médecine réflexe,
oui,
on apprend au médecin un patient a tel signe, je fais ça, tel signe, je fais ça. Moi, je trouve que c'est intéressant maintenant, depuis 6 ans, d'essayer de mettre un peu de réflexion dans la médecine. Pourquoi fait-on ceci? Pourquoi fait-on cela? Est-ce que véritablement, il faut faire tout ceci, tout cela? Si je devais résumer pour la médecine, et pour en finir sur la médecine, c'est que quand j'étais, ou quand je suis toujours réanimateur, mettre des tuyaux, je sais faire.
Oui.
Faire des trous, mettre des tuyaux, je sais faire. Ne pas les enlever, ou plutôt les enlever, ça nous arrive plus rarement. Par contre, ne pas mettre de tuyaux, c'est une question qu'on ne se posait jamais. Donc, je pense qu'il faut se poser des questions. Enfin, voilà, ça, c'est mon activité, donc, importante. Et parallèlement, pendant que je faisais mes études médicales à Toulouse, là aussi, je pratiquais la musique avec participation dans les chœurs de l'université à Toulouse, et puis chef de pupitre, c'est ce qui s'appelle vraiment s'occuper d'une partie du chœur. Puis ensuite, j'étais chef de chœur assistant, espérant toujours que le chef de chœur serait malade. Il n'était jamais malade, ce qui est une catastrophe. Donc après, participation à d'autres chœurs dans Toulouse, chef de chœur, arrivé dans le Gers, je crée un ensemble vocal qui s'appelait La Campanella, que j'ai dirigé pendant 19 ans, dans un parcours qui était tout à fait varié, soit du chœur seul, soit chœur avec orchestre, dans des programmes tout à fait différents les uns des autres. Et puis, cette envie de faire de la musique, et je continue toujours à faire de la musique, puisqu'il m'arrive de diriger parfois, soit à Toulouse, soit ailleurs, des productions avec l'Orchestre de Chambre de Toulouse, des choses comme ça. Et j'avais cette envie aussi de dire dans ce Gers, et notamment à Auch, qui est à 1 heure de tout, une heure de Tarbes, 1 heure de Toulouse, 1 heure d'Agen, 1 heure de Mont-de-Marsan, pourquoi ne ferions-nous pas venir ici des artistes, des gens qui sont dans mon imaginaire, dans ma tête en tout cas, qui font partie de mes rêves, dont j'avais les disques, des grandes stars, des grandes voix internationales qui n'ont aucune raison de venir à Auch. Mais alors aucune. Sur une des plus petites scènes de France, dans une ville de 25 000 habitants, avec un théâtre où il était beaucoup plus facile de s'asseoir que de se lever pendant des années, avec des lieux qui sont, bon, ce qu'ils sont. Alors je suis allé voir certains de ces grands artistes, dès les années 90, en leur disant, écoutez, voilà, moi je crois qu'on est un certain nombre de personnes à aimer ce que vous faites, à adorer ce que vous faites. Bon, les gens ici ne peuvent pas forcément aller à Paris, à Toulouse, à Londres, à la Scala de Milan ou ailleurs. Pourquoi vous ne viendriez pas au cœur de la Gascogne? La seule différence, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'argent. Ça, c'est une chose que vous voyez bien. Mais je pense qu'on vous accueillera bien au pays des arts de la bouche. J'espère qu'on saura vous accueillir, mais pas uniquement en parlant de bouffe, mais en parlant aussi de musique et en échangeant nos goûts. Alors ça a marché comme ça. Et de 91 à 98, on a fait 1, 2, 3, 4, 5 concerts pendant l'année. Et en 98, on s'est dit, mais au fond, pourquoi ne pas rassembler tout ceci sur une période beaucoup plus resserrée et en faire un vrai festival. Et c'est comme ça qu'est né, je dirais, en 1980. Alors, Éclat de voix est apparu dans le paysage culturel en 91 sur le Gers, et c'est en 98 qu'on a rassemblé sur une période comme celle-ci, telle qu'on la connaît, presque telle qu'on la connaît, du festival Éclat de voix qui était sur 10 jours et 10 nuits. Et puis, donc l'année dernière, en 2006, l'année dernière, on a changé la formule. Au lieu de faire 10 jours et 10 nuits consécutifs, on a fait 3 week-ends. Ouais. 3 week-ends parce que, manifestement, on est hors vacances scolaires, hors saison touristique. Tous mes collègues et amis, que ce soit Martiac, Tempo Latino, Country Music, tout cela ont des spectateurs, je dirais, en grand nombre, de par leur spécificité d'une part, mais aussi par le fait qu'on est en pleine saison de vacances, tandis que nous, nous touchons essentiellement le public gersois et le public vraiment Auch et le Gers. À tel point qu'on a, on a remarqué qu'on avait environ 82-83% de spectateurs du Gers et le reste se répartissant dans Midi-Pyrénées ou alors d'autres endroits si les affiches sont très porteuses. Et voilà comment maintenant Éclat de Voix a fait peut-être réussi un pari un peu insensé qui était de faire venir parmi les plus belles voix dans un endroit où personne n'aurait imaginé qu'elle puisse venir.
Tout à fait.
Voilà. Ben, j'ai tout résumé ma vie, finalement. Le reste, je ne peux pas en parler. Parce que...
On va peut-être prendre plus en détail quelques points de votre vie. Vous étiez assistant du chef de chœur de Toulouse, déjà à l'université.
Oui.
Vous avez une formation classique à la base ou...
Pas du tout. En fait, c'est très curieux parce que je suis ce qu'on appelle un autodidacte et que je n'ai jamais été dans un conservatoire, je n'ai jamais été dans une école de musique. J'ai été sensible au chant et à la musique certainement depuis mon plus jeune âge, puisque c'était mon père qui était musicien amateur et qui, quand je rentrais de classe le soir, je le voyais toujours au piano en train de jouer les mêmes valses de Chopin. Et puis il m'a amené dans des concerts. Je suis né à Tarbes, donc il m'a amené dans des concerts à Tarbes qui étaient des concerts de musique classique puisqu'il aimait ça. Donc je me suis imprégné. Et puis, en arrivant à Toulouse, c'est là où j'ai découvert la pratique du chant choral. Je n'y connaissais strictement rien. Donc je suis rentré comme ceci, emporté par la fougue étudiante, par des amis, dans un chœur. Et tout s'est révélé là. Et finalement, je dirais que j'ai appris sur le tas, mais avec une vraie envie, une vraie passion et un vrai appétit pour apprendre la musique et puis pour la pratiquer. Et voilà, je suis un amateur, je pense, au sens véritable du terme.
Est-ce que vous pouvez expliquer en quelques mots qu'est-ce que c'est vraiment un chef de chœur? Quelle est sa fonction?
Ah, c'est une très bonne question. Un chef de chœur, puisque vous savez qu'en France, il n'y a que des chœurs amateurs, il y a très très peu de chœurs professionnels, ils se comptent sur les doigts d'une seule main, les chœurs professionnels. Donc, en France, les chœurs amateurs, c'est ce qu'il y a vraiment de plus important et de plus nombreux. Ne serait-ce, parenthèse, en Midi-Pyrénées, il y a environ 500 chœurs amateurs qui sont répertoriés. Donc, si on compte à peu près 40 personnes par chœur, vous imaginez que ça fait 20 000 participants. Ouais. C'est ça qui crée un lien social extraordinaire. C'est plus l'époque des harmonies qu'on retrouvait dans chaque village, c'est maintenant l'époque de la pratique vocale. Alors, le chef de chœur, il se trouve face à des choristes, par définition, de tout horizon, de toute nature. Son but, c'est d'abord, c'est que probablement et même certainement en tête, il a une envie de faire de la musique, enfin j'espère pour lui, en tout cas pour moi c'était le cas, vraiment envie de faire de la musique, vraiment une conception d'un répertoire et de ce qu'il voudrait entendre, et il se trouve confronté à des gens d'origines diverses, avec des voix très diverses. Alors je dirais que le principal boulot, entre guillemets, du chef de chœur, c'est d'essayer de choisir ses voix, d'harmoniser ses pupitres, et de faire en sorte que le résultat final soit un résultat qui soit harmonieux.
Oui.
Et non pas de... Alors, tout dépend du recrutement et du choix. C'est pas forcé d'avoir une belle voix. On peut pas forcément avoir une belle voix personnelle, mais être bien intégré dans un chœur. Par contre, avoir une voix qui est très caractéristique et qui va mettre en péril un chœur ou un pupitre, ça c'est problématique. Donc il y a toute une alchimie entre le fait d'essayer de repérer, de faire travailler un chœur. Alors, ne serait-ce que pour avoir une ou deux mesures de juste, ça c'est un plaisir inouï. C'est ça le boulot d'un chef de chœur. Je crois que, un, c'est d'abord de faire que son envie soit contagieuse vis-à-vis des choristes, qui se sentent vraiment en train de dire « Ah, on fait quelque chose de beau ». Et j'avoue qu'une de mes plus belles émotions, c'est quand je dirige ou un chœur ou un orchestre, c'est, vous savez, la seconde qui précède le début de la musique. Oui. Au moment où vous avez une baguette ou pas de baguette dans la main, que vous commencez à lever, la fameuse levée avant de démarrer, eh bien là, qu'est-ce que vous voyez? 40 paires d'yeux qui vous regardent. Et vous savez qu'à ce moment-là, ils n'ont qu'un seul objectif, c'est faire quelque chose de beau. Ce qui est assez rare quoi, dans la vie. Il n'y a plus du tout de lutte, d'influence, il n'y a plus rien qui se passe, il n'y a pas de pouvoir. L'envie, on retient sa respiration, de faire du beau avec un corps qui s'ouvre comme ça. Voilà, c'est une vraie passion.
On voit bien. Ça n'a pas été trop difficile, trop compliqué de faire et des études de médecine et en parallèle
non,
justement
du tout,
faire de
du
la
tout,
musique
hein. Du tout, moi j'appelle ça des études médi-musicales. non, parce que c'est vraiment... Non, c'est comme si vous me demandiez si c'est difficile de marcher sur une jambe ou sur l'autre. Pour moi, c'est vraiment les deux axes de ma vie, mais vraiment. La médecine, quand je suis dans la médecine, j'y suis à fond. Quand je suis dans la musique, j'y suis à fond. Alors parfois, ça se chevauche. Et puis, non, moi j'ai trouvé aucune difficulté.
Bien.
J'ai de la chance, c'est tout. J'ai fait aucun sacrifice pour ça.
D'accord. Est-ce que vous pratiquez de la musique individuellement?
Non. Pendant une période, quand j'étais à Toulouse, je faisais partie de quelques petites parties de solo comme ceci, donc j'avais une voix de baryton classique, quoi, je veux dire. Pas la voix basse, de basse, pas la voix de ténor, encore moins de contre-ténor, donc j'étais un baryton. Donc il m'est arrivé de faire quelques solos, mais j'ai pas vraiment développé ça. Non, le piano comme ceci, mais non, ça uniquement chez moi. Donc, puis à partir d'un moment où le chef de chœur se met à chanter toutes les parties, parce que quand vous avez des chœurs amateurs qui ne déchiffrent pas forcément la musique, oui, pas tous en tout cas, vous êtes bien obligé de chanter à un moment la phrase musicale à un pupitre, oui, donc ça peut être des sopranos, des altos, des ténors ou des basses, donc votre voix devient totalement naze.
C'est bien.
Mais c'est comme ça. Bon, on essaie quand même de la garder un peu.
Alors en 1984, vous créez l'ensemble vocal Dosh. Ouais. Vous obtenez une notoriété mondiale.
Non, pas mondiale. Non, là, il y a une erreur. Certainement pas, non.
Des œuvres sont écrites spécialement pour votre ensemble.
Ah, ça, c'est vrai.
Et grâce à ça, vous arrivez à enregistrer des albums.
Ouais.
Alors, qui sont récompensés, ouais, de 3 étoiles dans le monde de la musique,
c'est
et
vrai,
de 3 diapasons.
C'est vrai, oui.
Et vous pouvez expliquer à quoi correspondent ces étoiles et ces diapasons?
Ce sont des revues spécialisées de musique, qui, notamment de musique classique, mais aussi de jazz et parfois un peu de world music, qui sont des mensuels et qui analysent tous les mois, depuis des années, les disques qui sortent en commerce. Mmh. Il se trouve que ces récompenses nous ont été attribuées lors de la sortie d'un disque où un compositeur, Xavier Darras, qui a été grand organiste, qui a été également aussi directeur du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, qui est toulousain et qui un jour a voulu écrire une œuvre comme ceci pour nous qui s'appelait La Messe pour les paroisses, qu'on avait chantée, qu'on avait enregistrée, donc effectivement, qu'on avait été diffusée sur Radio France. Et ça avait été fait, je pense, avec le même souci de simplicité. Et la Campanella, pour cette œuvre-là, avait été récompensée. Bon, mais c'est sympathique, mais ça donne pas une notoriété mondiale. Non. On avait notre petite reconnaissance, quoi, dans le coin, quoi, un petit peu au-delà. C'est tout, faut pas. Mais je minimise pas. Moi, je pense que l'expérience avec la Campanella, c'est une des plus belles expériences de ma vie musicale.
D'accord.
Parce que pendant ces 19 ans, on a donné effectivement des créations. D'autres compositeurs avaient créé pour nous aussi. On a donné des œuvres. Des grandes œuvres baroques, avec orchestre, avec solistes. J'ai engagé des solistes, par contre, eux, de renommée mondiale, qui faisaient que l'ensemble choral était mené, tiré vers le haut. Je ne me focalisais pas sur une période du répertoire. C'est-à-dire, nous n'étions pas un ensemble spécialisé dans la musique de telle époque. D'autres ensembles, actuellement, se spécialisent dans une musique d'une telle époque. Ce n'était pas notre cas. Notre volonté était de parcourir la musique depuis l'époque baroque, à l'époque contemporaine, en passant par l'époque classique, par l'époque romantique, ce qui fait qu'on arrive aussi bien de Bach à Mozart, aux compositeurs contemporains, en passant par Mendelssohn, ou en passant par des compositeurs de la Renaissance.
Bien. Alors en 91, vous créez Éclat de voix avec le succès que l'on connaît.
Ouais.
Est-ce que vous pouvez m'en parler, du moins m'en parler de la création, mais surtout cette année, qu'est-ce qui va se passer?
Alors, c'est ça, 91, on crée Éclat de voix, puis comme je vous disais, 98, ça devient le festival, et donc 2007, si l'on compte, ça fait donc la 10e édition d'Éclat de voix, et donc on fête notre 10e anniversaire. Alors, pourquoi marquer un petit peu d'une pierre ce 10e anniversaire? C'est l'occasion de faire la fête, quoi, je crois, parce que un 10e anniversaire, c'est pas un but, c'est pas un aboutissement, c'est une pierre sur le chemin, je crois. Ça permet à un moment donné de se retourner, de regarder un petit peu, tiens, qu'est-ce qu'on a fait, qui est venu à Auge depuis 10 ans. Et c'est vrai, quand on regarde la liste des artistes, c'est sympa quand même. On se dit quand même, ça commence à faire une jolie collection. Alors pour ces 10 ans, eh bien, avec nos moyens, parce que j'ai toujours des envies qui sont au-delà des moyens que nous avons, on essaye de rassembler une série d'artistes. Et ces 10 ans, on veut les fêter avec 3 notions principales. La première, c'est bien sûr toujours de respecter l'éclectisme des cas de voix, c'est-à-dire que ce n'est pas essentiellement du classique, loin de là. Il y a de la variété, il y a de la world music, il y a tout style de voix, et pas essentiellement des concerts classiques. Il y a une volonté aussi de donner libre cours à la création. Nous souhaitions absolument que ce 10e anniversaire soit un anniversaire où on trouve des créations, donc des commandes faites par le festival à des compositeurs qui seront créés à Auch, et puis la volonté de faire découvrir aussi des groupes qui ne sont pas connus en France. Et il m'arrive comme ça, avec beaucoup de chance, sans doute, je touche du bois. J'ai peur que ce soit des contreplaqués, mais enfin, je touche du bois. Et des groupes qui ne sont pas connus en France. Et que beaucoup de mes collègues, notamment professionnels, eux, je dirais les directeurs de scènes toulousaines ou d'ailleurs, que ce soit Audissus d'Emmanuel Gaillard, que ce soit les salles toulousaines, parfois ne connaissent pas ces groupes, parce que ça me fait très plaisir, parce que pour exister dans ce milieu, pour exister dans cette programmation, dans cette diffusion, si l'on refait exactement ce que font tous les collègues, ça n'a pas d'intérêt. Comment repérer Auch, comment repérer le Gers, comment repérer Éclat de voix, s'il n'y a pas une note un petit peu originale? Eh bien là, je dois avoir une bonne étoile, parce qu'il m'arrive chaque année, plus ou moins, avec bonheur, mais cette année encore avec bonheur, de trouver des groupes. Je pense à un, notamment, pour ces 10 ans, qui s'appelle le Real Group, qui est un groupe vocal de Suède, qui n'est jamais venu en France. C'est un groupe qui est une star dans les pays d'Europe, du Nord, de l'Est. C'est un groupe qui a fait de nombreux importants d'albums. C'est un groupe de jazz, pop, vocal, a cappella, sans instrument. C'est prodigieux. Ce sont 5 chanteurs, 2 femmes, 3 hommes, jeunes. Et donc, c'est leur première venue. Et ça, quand j'en parle à mes collègues, ils me disent qu'ils ne connaissaient pas. Ou alors d'autres connaissent en disant « mais c'est pas possible qu'ils viennent à Auch ». Il y a notamment des gens qui nous appellent de revues très spécialisées ou des gens qui disent « mais le Real Group en France, on ne l'avait jamais vu ». Donc ça, c'est un peu une fierté, quoi. Alors c'est angoissant, parce que comment faire la promotion d'un groupe inconnu en France et qui est une star ailleurs? Pas facile, hein?
Tout à fait.
Pas facile. Mais bon.
Grand challenge.
Mais bon. Il faut avancer, parce que si on n'avance pas, on recule.
Alors, est-ce que vous avez envie de parler de vos parrains cette année, ou des têtes d'affiche?
Alors,
enfin, là, vous venez d'en parler.
Oui, mais la marraine du festival, c'est Béatrice Oyamonzon, qui est la mezzo-soprano, la cantatrice bien connue, qui pendant une dizaine d'années a été la Carmen de Bizet de référence, et qui actuellement parcourt toutes les scènes du monde. Et j'ai demandé à Béatrice de donner un récital. Elle donnera un récital le vendredi 15 juin au Théâtre d'Auch, autour des Nuits d'été d'Hector Berlioz. C'est une œuvre fort belle. Et j'ai demandé à ce que ce spectacle soit différent, ou ce concert soit différent des récitals classiques. Vous savez, un récital classique, il y a toujours le soliste habillé en queue de pie, ou la soliste en robe longue, qui vient se lever dans le creux du piano, avec le pianiste en nœud papillon. Quand elle a fini, elle s'en va. Donc, tout ceci me fatigue un peu. Et j'aime bien déstructurer tout ceci. Alors j'ai demandé qu'elle vienne chanter, non pas en robe longue, mais ça a l'habitude, Béatrice, d'être naturelle. Et j'ai demandé qu'une voix aussi parlée soit de la fête dans ce spectacle. Et donc j'ai demandé à un comédien metteur en scène, Michel Faux, de venir dire des textes ou des poèmes autour du thème de la nuit.
D'accord.
La nuit qui a inspiré tellement de romantiques. Et au pianiste qui accompagnera cet artiste, de aussi décliner musicalement des nocturnes ou de Liszt ou de Chopin. Et si on aura un spectacle où les 3 artistes seront sur scène, sans la quitter, s'assieront sur un canapé, boiront un coup pendant que l'autre exprimera son art.
Ouais, ils seront donc complémentaires.
Voilà. Pendant 1h15, au lieu de les voir se succéder les uns les autres, ils seront là et chacun écoutera l'autre. Ce qui est quand même intéressant. Quoi. Ça, c'est au cours de ce deuxième week-end, tant que j'y suis, c'est ce 15 juin, un week-end que j'ai intitulé « Femmes du Sud ». Parce que Béatrice Oyamonzon, bien sûr, c'est une grande connotation de « Femmes du Sud ». Le lendemain, c'est la grande artiste flamenco Inès Bacan qui sera au théâtre à 21h, le samedi 16 juin. Ça, une voix mythique d'Andalousie, d'un flamenco tout à fait authentique. Et le lendemain, à l'abbaye de Flarens, puisque nous donnons toujours un concert à l'abbaye de Flarens, ce sont des polyphonies italiennes, sacrées et profanes, avec Silvia Malaguggini et la compagnie Nonassima, un curieux mélange de voix populaires italiennes, style Giovanna Marini, avec qui elles ont beaucoup travaillé, de 2 voix du monde baroque, ce qui paraît très curieux comme mélange, et surtout, et aussi, je dirais, d'un passionné de jazz, un percussionniste, guitariste, joueur de oud, de berimba ou de tambour, c'est Mathias Duplessis. Tout ceci fait un mélange tout à fait délicieux. Ça, c'était le deuxième week-end, 15, 16, 17 juin, sur les femmes du Sud. Mais c'est vrai qu'on va commencer le festival par une soirée inaugurale, qui est le vendredi 8 juin, qui est une soirée champagne, quoi. C'est dans la salle du Mouzon où on va accueillir alors 2 grandes formations qui sont le chœur de l'armée française et l'orchestre symphonique de la garde républicaine. Alors, ce sont deux organismes, deux structures très officielles dont le nom montre bien quelle est leur origine. Mais il ne faut pas s'attacher et s'arrêter à ça. Ce sont des grands professionnels, des formations très reconnues, de gens issus de conservatoires nationaux qui ont un prestige extraordinaire. Et j'ai souhaité que ce spectacle soit un spectacle champagne, je dirais très pétillant, parce qu'on donnera à entendre les plus grands chœurs d'opéra que l'on entend toujours en disque, etc. Là, vous allez voir avec 120 musiciens et choristes, sur avec scène, une puissance sur scène, des chœurs des esclaves de Nabucco, le chœur des matelots, le chœur des soldats de Fos, enfin tous ces grands chœurs qui font le bonheur de cette musique populaire. Et en même temps, le chœur interprétera des œuvres du romantisme et nous aurons une création mondiale d'un compositeur ami, Serge Kaufmann, à qui j'ai demandé d'écrire une œuvre pour cette soirée. Et donc, il y aura trois chants d'amour qui seront interprétés par le chœur de l'armée française et par un violoncelle solo. Et alors, cerise sur le gâteau, j'ai demandé à un de vos confrères, alors finalement illustre et bien connu, qui est Frédéric Lodéon, qui est donc le talentueux ex-violoncelliste et puis animateur et journaliste et producteur de l'émission à France Inter, à France Musique, de venir présenter avec toute sa verve cette soirée. Voilà le cadeau de départ. Et puis ça se termine par un troisième week-end.
Oui.
Le troisième week-end que j'ai appelé les voix royales. Alors les voix royales, c'était un choix que j'avais fait bien avant les périodes électorales. Mm-hmm. Donc il n'y a pas de rapport. C'est le 22, 23 et 24 juin. 22 juin, j'ai souhaité qu'on puisse ne pas se prendre la tête et qu'on puisse rire à gorge déployée. Ainsi, on aura deux récitals parodiques le 22 juin. Un premier à 18h au théâtre, au Centre Cuisin. Ce sera Acide Lyrique, un groupe de Toulousains où il y a à la fois une diva sulfurique, un ténor un peu léger, un baryton très profond, un pianiste un peu illuminé, un pianiste à queue, bien évidemment. Et là, c'est un pastiche burlesque sur des airs d'opéra qui sont traficotés, qui sont mélangés. Et le soir, au théâtre, à 21h, le groupe vocal 5 de cœur, qui a fait un triomphe à Avignon, un triomphe à Paris, au Ranelagh, actuellement encore à la Pépinière Opéra. Là aussi, ce sont 5 chanteurs et chanteuses qui, a cappella, vont participer à une recherche de sons. Alors, on verra des dialogues entre la Joconde et ses chanteurs. Ça partira sur une espèce d'harmonisation à 5-6 voix de Carmina Burana. Puis la Joconde répondra avec, finalement, un air qui va sur « Qu'est-ce qu'elle a ma gueule ?» Enfin, bon, je veux dire, c'est un gros crossover. Le 23 juin, le samedi 23 juin, c'est ce fameux groupe, The Real Group de Suède, en exclusivité française, donc, avec cette musique pop et jazz vocal a cappella. C'est un groupe qui a été récompensé par des sociétés américaines et qui ont donné des prix à ce groupe, les mêmes prix qu'avaient reçus auparavant les Manhattan Transfer, ou bien les Singers Unlimited, ou bien Take Six, pour dire un peu quelle est la puissance vocale et la beauté de ce groupe. Et nous terminons le dimanche 24 juin à 18h à la cathédrale d'Auch, avec des artistes qu'Éclat de Voix aime beaucoup, puisque ce sont les King Singers, qui est quasiment le meilleur ensemble vocal du monde, a cappella. 6 chanteurs, 6 hommes, 6 anglais, qui parcourent le monde, ça c'est évident, qui sont venus 5 fois déjà à Éclat de Voix, avec qui on a loué de bonnes relations, et qui vont chanter à la cathédrale des œuvres sacrées, bien sûr, autour des lamentations de Jérémie et de Thalys, mais qui aussi ont accepté de créer une œuvre d'un jeune compositeur toulousain, qui a écrit spécialement pour eux une œuvre qu'on appelle Los Cantaures del Rey, donc c'est le clin d'œil au chanteur du roi, le King Singers, Los Cantaures del Rey. C'est une œuvre sur une cadence flamenco. Et moi, je tiens à les remercier parce que les King Singers, qui sont habituellement les destinataires et les dédicataires d'œuvres de grands compositeurs, comme Luciano Berio, comme Giorgio Ligeti, enfin, c'est une truc énorme, d'avoir accepté que Thierry Huillet compose. Au début, c'était pas gagné. Au début, ils me disaient bon. Et puis bon, après, je crois que les relations que nous avons ont fait qu'ils ont accepté de créer cette œuvre courte de 4 à 5 minutes. Ouais. Et voilà, la boucle est bouclée, comme ça.
Alors là, le 31 mai à Toulouse, vous organisez un concert cantabile.
Voilà.
Mais pourquoi Toulouse?
Alors, la question est intéressante parce que ça fait la troisième année que j'aime bien faire en préambule au festival Éclat de Voix un concert à Toulouse. Alors, mon idée était très simple. Depuis le début, je disais, j'aimerais bien qu'on parle d'Auch et du Gers à Toulouse, tout simplement. Alors certains n'ont rien compris à ça. Au début, des rumeurs ont couru en disant, Éclat de Voix se délocalise, Éclat de Voix va à Toulouse. Des partenaires disaient, mais on donne de l'argent à Éclat de Voix pour qu'il aille faire des concerts à Toulouse, mais qu'est-ce que c'est ça? Il a fallu du temps, de la patience, de l'énergie pour dire, mais ne vous trompez pas. C'est tout à fait comme une sorte de délocalisation à l'envers. C'est qu'en fait, nous sommes implantés dans le Gers. Nous y sommes, c'est le cœur, c'est l'écrin d'Éclat de Voix. Mais il faut bien aussi aller montrer ce que nous faisons ailleurs. Et Toulouse me paraît être un bel endroit. D'autant plus qu'on peut quand même facilement venir de Toulouse à Auch, donc ça permet aussi d'aller chercher des spectateurs. Alors, c'est la première année, il y a donc 3 ans, j'avais fait venir les King Singers à la Lorraine à Toulouse. L'année dernière, c'était les Swingle Singers. Et cette année, c'est un groupe vocal anglais de 4 qui viendra non plus dans la Lorraine, mais au Théâtre de la Cité, au TNT, à Toulouse, le jeudi 31 mai à 20h30. C'est un groupe vocal anglais, 4 chanteurs, bien sûr. Et la différence avec les autres groupes, c'est que autant ça démarre, vous croyez que vous allez assister à un récital tout à fait normal, où vous avez ces 4 chanteurs qui risquent de démarrer avec un morceau de la Renaissance, et puis probablement, et même certainement, vous allez entendre que ça dérape de plus en plus tout au long du spectacle show, et que vous allez avoir 1h30 de récital parodique avec vraiment tout l'humour anglais, mais l'humour anglais visuel c'est une chose, mais auditif aussi, puisque j'ai en tête un morceau qui s'appelle Stranger in the Night, un morceau de Frank Sinatra qui commence fort bien. On entend les 4 chanteurs chanter Stranger in the Night. Bon, on s'assoit, on écoute, on regarde, ça paraît normal. Et puis après, au bout d'une minute, on s'aperçoit que vocalement, ils imitent le disque qui est rayé. Ou bien la courroie du vinyle, du lecteur de disque qui se détend. Et tout ce que l'on a connu. Et tout ça, c'est fait sans aucun trucage, rien, et c'est à mourir de rire. Donc voilà, le 31 mai, c'est 8 jours avant le début du festival à Auch, c'est le préambule à Toulouse, et c'est une envie de montrer à Toulouse ce qu'on peut faire ici, aussi chez nous. Quoi.
D'accord. Comment vous faites pour choisir les participants du festival? Est-ce qu'ils vous contactent, eux, ou est-ce que c'est vous avec la notoriété ou...
Alors, au début, c'était... je partais à la pêche. Oui. Maintenant, en 2007, il faut savoir que je reçois à peu près entre 800 et 1000 demandes d'artistes de tous horizons, de toutes nationalités, ce qui me pose d'ailleurs un vrai problème, puisqu'on est une entreprise tout à fait artisanale. Par rapport à certaines structures, nous, on a tout juste une salariée maintenant depuis 2-3 mois, et c'est un contrat aidé, hein. Je veux dire, il faut être clair, quoi, hein. La structure n'est pas grosse, donc elle repose sur le bénévolat. Donc, c'est très difficile, effectivement, sur 1000 dossiers, mais enfin, bon. Comment je l'ai choisi? Certainement pas en me basant sur des tournées. Par exemple, s'il y a des artistes qui me font savoir qu'ils sont en tournée, donc ils pourraient être à Auch, mais ils seront à Toulouse, à Agen, à Tarbes. Bon, hormis cas exceptionnels, je ne me base pas sur ce principe-là. Ça me coûterait moins cher, mais bon. Par contre, je me base sur le concept. Je me dis, maintenant j'ai 3 week-ends, mais avant j'avais 10 jours et 10 nuits, comment faire, comment mélanger, comment avoir des voix du monde en même temps du classique, comment mélanger les publics, comment proposer des choses de cette nature. Alors, ce sont des choix personnels, je n'engage personne que je n'ai jamais entendu, quand même, ça c'est important. C'est une espèce de mélange entre les contacts que je peux avoir, les souhaits que je peux avoir. Vous savez, le Real Group, par exemple, c'était un choriste toulousain qui chante aux Éléments, le fameux groupe de Joël Subiette, qui depuis 2 ans me disait « Est-ce que tu connais le Real Group ?» Je disais « Ça me dit quelque chose, oui, mais bon, je ne connais pas vraiment. » Donc il m'a mis un disque entre les mains il y a 2 ans, puis l'année d'après il était revenu. Oui, je dis « Oui, c'est vrai, c'est vrai. » Puis au bout de 2 ans, quand même, je me suis dit « Il faut que j'écoute de plus près ceci. » Et quand je me suis posé et que j'écoutais ça, je dis « C'est son pieu. C'est son pieu. Il est faux. » Alors là, on n'avait aucune adresse, rien du tout. Alors, j'ai quelques contacts. J'avais une agent que je connais à Stuttgart, en Allemagne, à qui j'ai dit, ce serait bien que tu me trouves le Real Group qui est en Suède. Enfin bon, voilà. Oui. Et à partir de là, on a... Ce qui fait que parfois, les gens viennent spécialement pour ça. Alors, c'est pas économique. Ça, je reconnais que c'est pas économique. Et que, même si le budget n'est pas énorme que nous avons, il est quand même relativement conséquent, mais... une grosse part, c'est certainement sur les déplacements. Mais d'un autre côté, je pourrais faire un éclat de voix avec des gens de qualité bonne, mais pas aussi excellente. Oui. Et pour moi, ce serait plus éclat de voix. Quoi. Tout mon problème est là. Donc, je sens bien que j'ai des envies, parfois, qui dépassent certains moyens, donc je suis obligé de me réfréner. Ouais. Donc voilà, c'est une espèce de hasard, pas forcément du hasard quand même, hein. De mélange entre des envies personnelles, des choses que je vois passer, que je vois entendre,
des influences.
Voilà, des influences. Et puis, je suis sensible aux conseils, quand même. Je sais que peut-être qu'il y a une partie qu'il faudrait que je développe un petit peu plus. Voilà, même si je suis de tradition classique dans mon approche musicale, j'ai pris autant de plaisir, moi, à entendre un grand contre-ténor comme Andreas Scholl, qui avait donné son seul récital en France en 6 mois, il y a quelques années, à Auch, que j'avais entendu, le groupe de rock a cappella anglais, les Flying Pickets, à l'époque où ils étaient excellents, où il y avait deux blacks à l'intérieur, et moi je garde des souvenirs, j'ai pas de différence de plaisir entre les deux, moi je... Puis je crois que beaucoup de musiciens classiques écoutent parfois d'autres musiques, ils n'osent pas le dire. Et voilà. Alors ça me pose un problème, parce que les revues de musique classique disent « Ben non, là, il n'est pas dans le classique. » Les revues de musique disent « Ben non, mais c'est pas... » Et on est finalement, je crois encore, le seul festival en France qui a un tel mélange au niveau de la voix, consacré à la voix. Il y a toujours des festivals de jazz vocal, des festivals de musique baroque, des festivals romantiques. Bon. Et celui qui mélange un petit peu, même beaucoup, la world music, la variété, à condition que ce soit les premiers de la classe, si je puis dire, ceux qui ont des belles performances vocales, mais qui aussi dégagent beaucoup d'émotions. Mais je crois qu'on reste encore un petit peu original, quoi. Alors ça, les gens le savent à l'extérieur. Ça se voit d'ailleurs avec la presse parisienne et compagnie, ou tous les... Donc, on le sait toujours plus à l'extérieur que localement. Mais ça, c'est classique. Hein. Nul des prophètes dans son pays. Ruchmania est très connu à l'étranger. Donc,
parce que combien que...
C'était pour vous répondre à la notoriété mondiale tout à l'heure.
Oui, d'accord, merci. Mais c'est bien de ne pas avoir une étiquette, justement.
Oui, moi, j'aime bien ça. Moi, j'aime bien ça parce que, effectivement, si... Moi, ça c'est ma vie, ça, je veux dire. Qu'est-ce que je pourrais pour illustrer ça, moi J'aime autant entendre le premier CD, le premier album de Carla Bruni que des grands chœurs d'opéra, parce que j'ai envie d'être musique puissante et très populaire, qu'un récital très intimiste d'un contre-ténor dans des œuvres particulières, que des groupes comme le Hilliard Ensemble qui avait fait des polyphonies du 15e siècle. Enfin, dans la mesure où ça peut éveiller en nous une émotion, moi j'ai souvenir d'avoir amené à l'abbaye de Flarens des collègues médecins qui me disaient « Qu'est-ce que tu nous conseilles pour venir au festival Montpon ?» J'avais dit « Mais moi je te conseillerais tout, puisque c'est moi qui programme, donc je peux dire... » Mais peut-être, tiens, viens à Flarens, c'est un climat particulier, il n'avait aucune connaissance de la musique classique, encore moins de la musique médiévale, la musique... Ils y sont venus, et je savais que ça pouvait certainement les toucher par l'émotion qui allait s'en dégager. Ils sont sortis de là... ébahi de savoir comment quatre hommes pouvaient arriver à donner un son pareil et mettre les gens dans un climat d'émotion. Voilà. Donc c'est un parcours de missionnaire qu'il faut avoir localement, le bâton et la carotte à la main, quoi.
Donc quelle est votre plus belle récompense ?
Au niveau musical ?
Oui. Ou même personnel, d'ailleurs. Parce que ça reste vraiment personnel, ce qu'on ressent et tout ça.
Ma plus belle récompense ? Je suis bien embêté, là. C'est vrai que je me suis jamais posé la question comme ça. Vous voyez, je reste assez muet là-dessus.
Ou alors celle qui vous a le plus ému. Ça vous aide pas plus, hein.
Mais non, parce que je suis pas dans une démarche de récompense, quoi. Je cherche pas de... Non, je crois que... Ce que je pourrais dire qui se rapproche de ça, c'est que... certains rêves d'adolescent ou de jeune homme que j'avais avec des artistes que je ne connaissais que par le disque, maintenant je les connais en vrai, quoi. Comme on dit quand on est gosse, pour de vrai. Quoi. Pour de vrai, ils sont là et je leur parle, et quand on peut les appeler, on s'appelle et on se connaît. Et si je les vois ailleurs qu'à Auch, ou à Paris ou ailleurs, quand je vais les voir, comment vas-tu, quoi. Et ça, c'est peut-être pas la récompense, mais c'est quand même un rêve, quelque part, qui est accompli, quoi. Alors, j'ai d'autres rêves, d'autres envies, mais si je devais choisir, probablement que c'est ça. Alors, ma plus belle récompense, si, quand même, parce que c'est pas le mot récompense, donc il y a le plaisir d'avoir des artistes comme ça que je connaissais uniquement virtuellement, il y a aussi le plaisir de faire de la musique. Ça, je crois que c'est ce qui est, avant toute chose, c'est ça qui est extraordinaire. Et ces 19 ans passés à la tête de la Campanella, même si parfois c'était laborieux, qu'il fallait rabâcher, il faut avoir une grande patience de rabâcher tous les mardis soirs, parce que bon, on n'a pas forcément une évolution de mardi en mardi, oui. Ça ne progresse pas forcément tout seul à la maison, chez les gens. Bon, ça, pour être clair, les choristes amateurs, ils vont rarement bosser à la maison la partition pour arriver le mardi en sachant mieux que le mardi qui précède. Donc, le chef de chœur doit toujours essayer de positiver, d'amener... Mais des concerts que nous avons pu faire avec la Campanella, avec l'Orchestre de Chambre de Toulouse, des réalisations comme ça, là, je crois que c'est un vrai bonheur. Ça, c'est un vrai bonheur.
D'accord. Alors, je vais revenir juste quelques instants vraiment sur votre parcours professionnel. Alors, vous avez déjà été assistante de chef de chœur.
Ouais.
créateur d'Éclat de voix, ouais. président du Centre régional d'art polyphonique de Toulouse,
ouais.
chevalier des arts et des lettres.
Oui, j'ai jamais acheté la médaille, j'ai jamais fait de cérémonie, voyez.
Et puis, grand médecin quand même.
Au grand, non, parce que je mesure 1m81. Je crois que c'est... Voilà.
Mais où trouvez-vous tout ce temps et toute cette énergie pour faire tout ça et mener tout ça de front?
Non, mais c'est facile quand même, non? Mais c'est un problème d'organisation.
Mais le problème, c'est pas un problème du tout d'ailleurs, c'est que vous menez de plein front la musique et la médecine, puis pas simplement un médecin, quoi. C'est vraiment autre chose. Donc c'est...
Mais écoutez, moi je sais pas, moi je... L'agenda est un peu rempli, c'est vrai. Bon, il suffit un peu de s'organiser. J'ai du temps aussi de disponible pour mes loisirs. Enfin, en ce moment, pas trop. Les choses se culbutent un petit peu en ce moment. Donc. Mais non, je suis médecin à temps plein, bien évidemment. Et donc, pendant que je suis dans la médecine, j'y suis. Et puis, dès que c'est terminé, je suis ailleurs. Et j'ai peut-être une chance par rapport à d'autres personnes, c'est que j'ai besoin de sommeil probablement un peu moins. Je dois dormir, je ne sais pas, 5 heures. Par nuit, 5-6 oui, je dors quand même, hein. 5-6 heures. Il y a parfois des week-ends où je dors totalement. Parce que... Mais la grande chance que l'on a avec Internet, et je suis bien placé pour en parler, c'est que par rapport à il y a quelques années, on se disait que c'était impossible de faire tout ça. Mais maintenant, la nuit, chez vous, dans votre environnement, c'est extraordinaire. Mais là-dessus, vous transférez tous les fichiers, tous les contrats, tous les MP3, tous les trucs comme ceci. Mais c'est génial. Vous trafiquez en 2 secondes, vous êtes avec un agent en Allemagne, un autre en Angleterre, vous vous envoyez des choses, vous corrigez des brochures comme ceci très rapidement, vous avez des sites internet, le nôtre est très bien aussi, plein de choses comme ça, et donc ça va beaucoup plus vite. Donc, voilà. Et ça sert aussi en médecine. Parce qu'en médecine, les réunions que nous avons entre différents médecins à droite et à gauche, eh bien, écoutez, on s'envoie des documents les uns aux autres, et puis voilà, chez soi, on fait beaucoup de choses. Ça ne remplace pas le contact humain et le fait de toucher des patients, de voir des patients, de les toucher, les examiner, de les entendre, de parler avec eux, et le fait aussi de voir, de toucher, d'entendre les artistes. Le spectacle vivant, c'est quand même ça qui est important, quoi. Parce que sinon... On arrive dans un spectacle pensant qu'on va écouter un CD. Et non, il faut entendre respirer les gens, il faut entendre les voir suer, les entendre, les voir trembler. Et l'émotion, elle est due à la fragilité de la voix. C'est pas de s'asseoir dans un fauteuil, de mettre un CD, c'est très agréable, je le fais aussi. Mais de voir combien une voix est fragile, c'est à mon sens ça qui lui donne de la puissance émotionnelle. Voilà.
D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est le site ?
Ah, le site d'Éclat de voix. Il est si beau ce site, Éclat de voix. Prenez un crayon, n'oubliez pas, parce que le temps que je vous le dise, c'est un site où vous retrouvez toute la programmation d'abord de toutes les années écoulées. Ça donne une petite idée sur l'historique d'Éclat de voix. Toute la programmation du 10e anniversaire, bien évidemment, jour après jour, concert après concert, bien détaillé, avec des extraits audio, des extraits vidéo, notamment de Cantabile, où vous verrez ce que ça donne, des extraits vidéo du Chœur d'Armée Française, des extraits vidéo des King Singers, des extraits audio de chaque autre concert. Et c'est un site très simple à retenir, éclat au pluriel, hein, n'oublions pas, éclat de voix, tout ceci attaché,
sans accent,
.com. Donc je répète, www.éclatdevoix.com.
D'accord. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter?
Non, écoutez, pour un lundi de Pentecôte, je viens vous voir, je trouve que c'est très agréable parce qu'on a du temps, il fait un temps affreux.
Tout à fait.
Donc, la seule chose que j'ai à rajouter peut-être, c'est que pendant ce festival 2007, il y aura la fête de la musique, et j'en ai pas dit un mot, mais comme tout le monde, bien sûr, nous ne resterons pas muets le jeudi 21 juin pour la fête de la musique. Je ne l'ai pas mis dans la programmation d'Éclat de voix, puisque ce n'est pas, ça n'appartient pas à Éclat de voix, la fête de la musique. Mais nous serons à la Maison de Gascogne, et nous aurons des groupes, notamment d'Abdelakra, avec son groupe, son combo, qui viendra nous réchauffer pendant 2 heures. Donc nous avons commandé la pluie pour le jeudi 21 juin, de telle manière que toute la ville puisse se retrouver sous la Maison de Gascogne, et nous avons décidé de partager la soirée en deux, beau temps pour les cafés, les terrasses, et à partir de 22 heures, pluie battante pour que les gens viennent à la Maison de Gascogne. Et puis voilà, c'est histoire de ne pas se prendre au sérieux, et de ne pas en faire des manifestations comme ça, qui seraient élitistes, c'est ce que je n'aime pas. On me dit parfois que je suis de tendance élitiste. J'aime bien faire venir l'élite des voix. Bon, ça a un coût, c'est vrai. Et c'est vrai que ce n'est pas forcément abordable tout le temps, bien qu'il y ait des réductions pour toute catégorie sociale, qu'il y a des passes culturelles du GERS aussi auxquelles nous avons adhéré, et que certainement les prix, quand on les compare les nôtres avec ce que les gens paieraient ailleurs pour voir ces mêmes artistes, sont au minimum la moitié moins chers, quoi. Ouais. Donc ça, je ne pense pas que c'est une démarche élitiste, mais je pense que c'est pouvoir amener de la musique de différentes natures auprès de spectateurs qui n'auraient pas l'occasion de l'écouter.
Et puis surtout, voilà. D'excellente qualité.
Et c'est, le but, il est là. C'est dans une terre d'excellence, il faut apporter des choses excellentes. Donc ça, c'est du blabla, tout ça, mais bon... C'est pas que du blabla quand même, non, c'est une vérité, je pense.
Bien, je vous remercie beaucoup.
Merci à vous.